Bonjour à tous. Je vous propose une première lecture dans le livre des psaumes et on va prendre le psaume 49. Nous lisons dans le psaume 49 l'attitude de quelqu'un qui, comme on l'a chanté, est plein d'assurance. Qui est plein d'assurance malgré une situation qui pourrait éventuellement être difficile, c'est ce qu'il dit lui-même. Mais il est sans crainte, absolument sans crainte. Psaume 49, on va le lire en entier. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille. Vous tous, habitants du monde, petits et grands, ensemble, riches et pauvres, ma bouche va prononcer des paroles sages et mon cœur médite des pensées intelligentes. Je prête l'oreille aux sentences, j'expliquerai mes énigmes au son de la harpe. Pourquoi aurais-je de la crainte au jour du malheur, lorsque la faute de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se félicitent de leur grande richesse. Ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. La libération de leur âme est chère et n'aura jamais lieu. Vivrait-on toujours sans voir le gouffre? Car on le verra, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également et laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours et leurs demeures de génération en génération, eux qui avaient donné leur nom à des terres. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes qui périssent. Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois pas dans la crainte quand un homme s'enrichit, quand la fortune de sa maison s'accroît, car il n'emporte rien en mourant. Sa fortune ne descend pas à sa suite. Il pourra s'estimer heureux pendant sa vie. On te célébrera parce que tu as eu du bonheur. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qui périssent. On a ici quelqu'un qui est plein de sagesse et qui regarde avec un certain recul les situations des hommes et des femmes et qui considère une chose importante, c'est que dans la vie, l'important n'est pas d'avoir, l'important c'est d'être. Et je le dis ça comme ça parce qu'en français, on a ces deux auxiliaires, avoir et être. L'important n'est pas d'avoir, l'important c'est d'être. Et c'est là tout le secret, tout le mystère de l'Évangile. C'est tout le mystère de ce que Dieu veut faire dans nos cœurs à chacun. Ici, on a affaire à quelqu'un qui a compris quelque chose. Et il fait appel. Au début de ce psaume, vous avez remarqué, ça commence par une interpellation. Écoutez ceci. Prêtez l'oreille. Et on voit, si vous relisez les trois premiers versets, que cette parole s'adresse absolument à tous. Aux riches comme aux pauvres, à celui qui possède comme à celui qui n'a rien, à celui qui est âgé, qui a de la sagesse, comme à celui qui est jeune, qui a besoin de maturité. Ces mêmes paroles sont pour tous et elles sont bénéfiques pour nous tous. De la même manière, j'aimerais vous dire cet après-midi que la bonne nouvelle de l'Évangile, elle est pour tous. Et c'est pour cela, comme ce psalmiste quelque part, je vous interpelle et je vous dis écoutez la bonne nouvelle que Dieu veut vous annoncer cet après-midi. J'ai reçu quelque chose que j'aimerais vous partager. c'est que Dieu est grand et qu'il veut vous transformer d'esclave que vous êtes aujourd'hui en fils. Et il ne veut pas vous donner, mais il veut vous faire devenir. Il veut vous soyez à la même manière que ce Dieu s'est donné comme nom, je suis. L'important n'est pas d'avoir, n'est pas de posséder. L'important, c'est d'être quelqu'un. Alors, je me pose cette question, on le voit dans le début de psaume. On voit ce constat terrible qu'on peut tous faire. Nu, je suis arrivé dans ce monde, et nu, j'en repartirai. Vous savez qui a dit ça ? C'est Job qui a dit ça. C'est Job qui a dit ça. Et c'était un homme riche qui a tout perdu et qui a tout retrouvé. Et finalement, il a compris une chose dans cette expérience, c'est que l'important, c'est pas d'avoir, c'est d'être. Et la plus grande découverte qu'il ait pu faire, il l'a faite alors qu'il n'avait rien du tout. Il avait tout perdu. Il avait perdu sa santé, il avait perdu tous ses biens, il avait perdu ses enfants, et même sa femme s'était éloignée de lui en lui disant « Mais maudit Dieu !» alors que lui avait décidé en son cœur de ne pas maudire Dieu et de rester intègre. Et c'est alors qu'il avait tout perdu qu'il a appris la plus grande leçon de sa vie. Comme quoi, à quel moment était-il riche ? On peut se poser la question. À quel moment Job était-il riche ? À quel moment a-t-il acquis la plus grande richesse ? Quand il a compris ce que Dieu voulait faire de lui. Quand il a compris qui était Dieu. On peut le lire à la fin du livre de Job. Donc c'est juste avant les psaumes, c'est facile. Job, il répond à l'Éternel. Verset 3, il cite la question que Dieu lui a posée. « Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissances, alors qu'il pensait savoir ?» Tout est inversé en fait. Alors qu'on est riche, en fait, on est pauvre. Alors qu'on est pauvre et qu'on réalise sa pauvreté, en fait, on est riche. Alors qu'on croit connaître, on ne connaît rien. Et alors qu'on pense ne rien connaître, Dieu nous révèle. Ici, Job dit, « Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Il recite à nouveau Dieu, « Écoute-moi. » « Et moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et Job répond ceci, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job a compris quelque chose. Il a trouvé une précieuse richesse quelque part, alors qu'il n'avait rien. Il avait tout perdu. Et finalement, dans ce psaume, on se retrouve à cette même réflexion. Finalement, quelle est la vraie richesse ? On a le psalmiste qui décrit justement tous ceux qui sont avides de biens, tous ceux qui sont avides de posséder, qui veulent avoir, avoir et encore avoir, et avoir toujours plus. Alors qu'il se rend bien compte que si un jour sa vie lui est redemandée, tout ce qu'il aura obtenu, ça sera pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ce n'est pas une vanité ? Salomon dit la même chose. C'est bien une vanité. Alors pour y dire, oui, mais j'amasse, mais c'est pour mes enfants, ça leur servira. D'accord. Mais est-ce que c'est là la plus grande richesse qu'on peut transmettre à nos enfants ? Je ne crois pas. L'important, ce n'est pas de posséder. Et le psalmiste l'avait bien compris. Le psalmiste avait bien compris ce mystère. Lui qui peut-être sur la terre n'avait pas grand-chose. Il avait compris que la vraie richesse était ailleurs. Et la richesse n'est pas dans la possession des biens, qui, de toute manière, soit dit en passant, ne nous appartiennent jamais, finalement. Pour moi, on est propriétaire des choses quand on pourra les garder toujours. Sauf que, sur cette terre, rien ne nous appartient. Tout nous est confié, peut-être. Les choses qu'on a à disposition nous sont confiées. Alors, posons-nous la question, qui nous a confié ces choses ? On peut bénéficier, avoir la jouissance de certaines choses pour un temps. Parce qu'un jour, on devra se séparer de ces choses. Alors, est-ce que c'est important de m'attacher à des choses auxquelles un jour je serai amené, tôt ou tard, à me séparer ? Que ce soit parce que je serai perdu ou que je serai sauvé, d'ailleurs. Si je suis sauvé, ce dont j'ai la jouissance à ce jour n'est rien comparé à ce dont on aura la jouissance dans le ciel. Si Dieu a ainsi permis que chacun d'entre nous, méchant ou bon, puisse bénéficier de tout un tas de choses, ne pensez-vous pas que Dieu veut donner des choses à ceux qu'il aime dans le ciel, et elles seront hautement plus grandes que celles qu'il nous met à disposition au même titre que tous les hommes. Dieu veut nous donner des choses tellement meilleures que celles que nous pouvons connaître ici-bas. Et nous, on s'accroche à des choses qui sont finalement sans valeur, comparées à ce que Dieu veut nous donner. On s'attache à ces choses. Et on ne peut que constater que tout ce qui nous est confié sur cette terre, tout ce dont on peut avoir la jouissance un jour, ça s'arrêtera. Même quelqu'un qui est très riche, imaginez une famille très riche qui possède de belles demeures. N'est-ce pas malheureux qu'un jour, dans la vieillesse, ces mêmes personnes ne puissent plus avoir la jouissance de ces belles maisons, ces belles piscines, et se retrouvent en maison de retraite dans une chambrée de 30 mètres carrés ? Je ne dis pas que c'est tout le sort des personnes âgées, mais il y en a comme ça, qui ont des richesses, mais qui, à la fin de leur vie, n'ont même plus la jouissance, déjà, parce que leur âge est trop avancé, ils n'arrivent plus à pouvoir en jouir. On voit que les choses, au fil du temps, nous sont retirées. Elles ne nous appartiennent pas. Et ce ne sont pas des choses auxquelles il nous faut s'attacher. Il y a tellement mieux. Comme je disais, l'important, c'est pas d'avoir, c'est d'être. Et je l'ai déjà cité, mais je vais le reciter, ce petit exemple de deux garçons qui discutent dans la cour d'école. Et il y en a un qui dit à l'autre, « Alors toi, t'as combien d'argent de poche ?»« Ben moi j'ai 50 euros d'argent de poche, et toi, t'as combien ?» Alors l'autre, il est interloqué, il dit, « Ben moi, j'ai rien. » Alors le premier commence à rire, il dit, « Mais t'es pauvre, t'as rien. » Moi, j'ai 50 euros, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et l'autre petit garçon de sourire et qui dit, mais oui, mais moi, mon père, il est banquier. Quel est le plus important ? D'avoir 50 euros par mois ou d'avoir comme père le grand banquier ? D'avoir comme père le banquier qui peut donner à chaque fois que son enfant le lui demande ? Quand j'étais plus jeune, j'avais bien compris avec mes parents, qu'il m'était plus avantageux de ne pas avoir d'argent de poche et de demander les choses au fur et à mesure que d'en avoir et que mes parents me disent « Ben, tu gères !» Au final, j'étais perdant dans l'affaire. Il valait mieux que je laisse à mes parents le soin de confier, de gérer l'argent. Et moi, quand je voulais quelque chose, je leur demandais. Puis ils me donnaient. Si je faisais les comptes, j'étais plus avantagé à ne pas avoir d'argent de poche. Mais c'est quelque chose qui nous enseigne beaucoup. Parce que l'important, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'être le fils du banquier. C'est d'être le fils ou la fille de celui à qui tout appartient. Parce que, en plus, en étant son fils ou sa fille, on se retrouve en position où Dieu, le Père, à qui tout appartient, veut tout nous donner parce qu'il nous aime. Il veut répondre au moindre de nos besoins. Je vais citer quelques passages de la parole. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, et il sait qu'ils sont vains. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. La sagesse de ce monde, c'est de toujours posséder, en avoir le plus possible, pour être tranquille, pour être à l'abri. Mais à l'abri de quoi ? Vous mettez de l'argent de côté pour vous mettre à l'abri de la pauvreté ? Malheureusement, c'est une maladie grave qui vous tombe dessus. Et tout cet argent, à quoi cela servira-t-il ? Il peut y avoir des tas d'exemples où finalement, on exerce notre sagesse humaine à prévoir des solutions, à prévoir des choses, et on se rend compte que la vie durant, tout ce qu'on avait prévu, soit ne nous sert pas, soit ne convient pas, soit ne correspond pas à ce que la vie nous fait traverser. Tout ce qu'on prépare, au final, n'a pas grande valeur. Par contre, celui qui place sa vie dans la main de Dieu, qui lui fait confiance, et qui, quand les besoins se font sentir, demande à Dieu sa grâce, il peut vérifier la bonne grâce de Dieu. Il peut vérifier à quel point l'amour de Dieu est grand. Que ce soit pour avoir un travail, que ce soit pour bénéficier de telle ou telle situation. Et il y a un proverbe qui dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » On a le canal du Midi, on a réussi à faire ça. Mais Dieu, il fait pareil. Mais pas avec de l'eau, avec le caractère de ceux qui dirigent ce monde. Que ce soit les hautes sphères de ce monde ou que ce soit des patrons d'entreprise, des chefs. Quand on considère qu'on est fils de Dieu et qu'on sait qu'il s'occupe de nous, il est capable de nous donner un travail. Parce qu'il est capable de faire en sorte que la personne qui va lire notre lettre de motivation va être interpellée. Il va faire en sorte qu'on puisse l'écrire de la bonne manière. Dieu sait toutes choses. Et celui qui appartient à Dieu, eh bien, il vit dans une confiance, dans une assurance, comme on l'a chanté. Parce qu'il sait que Dieu conduit et dirige toutes choses. Et n'est-ce pas là la plus grande richesse ? De savoir qu'au moindre besoin, et même pour celui qui plaît à Dieu, nos désirs peuvent être exaucés. Nos désirs, je ne parle même pas des besoins, je parle des désirs, des souhaits. Celui qui plaît à Dieu, qui a une vie qui plaît à Dieu, peut retrouver ses désirs exaucés. Tellement Dieu veut nous faire du bien et nous entourer de ses bienfaits. L'important, ce n'est pas d'essayer d'obtenir de telle ou telle manière. Dans le psaume, on voit que le psalmiste décrit une situation où les hommes ont essayé d'obtenir, mais par la fraude, par la tromperie. Verset 5, non, c'est le verset 6. Pourquoi aurais-je de la crainte au jour du malheur lorsque la faute de mes adversaires m'enveloppe ? Ils ont confiance en leurs biens et se félicitent de leur grande richesse. Je dirais,